Donc, je m'appelle Denis Guénoun. J'ai été paroissien du foyer de l'âme il y a assez longtemps, presque 20 ans. J'ai reçu le baptême ici même, des mains du pasteur Geoffroy de Turckheim, au souvenir de qui je voudrais adresser une pensée de gratitude et d'amitié. Mon parrain était Jean-Nicolas, qui est ici, ainsi que Claudie de Turckheim, l'épouse du pasteur. Puis je me suis éloigné, la vie étant selon ses chemins. Et il y a quelques mois, au début de cette année, à l'automne, je suis venu ici à nouveau et j'y étais très fortement accueilli. On m'a demandé si je voulais bien faire une prédication. Alors c'est assez impressionnant, mais j'ai dit oui. J'en avais déjà fait deux, ici même, dans le cadre des prédications-conférences du mois de janvier, et une beaucoup plus récemment à l'Oratoire du Louvre. Donc je me suis dit, bon ben, faut y aller. Et puis, il y a eu des changements de date, de mon fait d'ailleurs. Et on s'est retrouvé avec cette date d'aujourd'hui, au milieu des vacances. Et une responsable de la paroisse m'a indiqué que, du fait que c'était en pleine vacances, il fallait que je fasse la liturgie et que je préside la totalité du culte parce qu'elle ne voyait pas qui pouvait le faire à cette date. Apparemment, je vois qu'il y avait tout à fait des possibilités, mais bon. J'ai résisté un peu, puis je me suis dit que quelque chose était demandé là et qu'il fallait que j'essaie. Ce n'était pas simple. Voici ce que je vous propose pour essayer de relever ces défis, en ce qui me concerne au moins. Je vous propose de nous appuyer précisément sur l'ordre du service qui figure dans le volume Nos cœurs te chantent, qui n'est pas exactement l'ordre du culte tel qu'il est. Il y a beaucoup de parenté, bien sûr, mais il n'est pas l'ordre du culte tel qu'il est pratiqué plus récemment. Et m'a semblé utile de revenir à cette possibilité, non pas qu'elle soit meilleure qu'une autre, mais pour en retrouver l'histoire, et puis pour essayer, en ce qui me concerne, d'approcher le sens de chacun de ces moments. C'était ma tentative d'essayer de comprendre ce que nous faisons et ce que nous disons. Ce qui, dans mon cas, n'était pas tout à fait acquis à chacune des étapes. Je vais essayer de suivre cette exigence. Donc, comme vous voyez, le premier moment, c'est la salutation pastorale. Alors, pastorale, aujourd'hui, ça sera par défaut, mais la salutation. Alors, chers frères et sœurs, salut. La méthode qui est la nôtre sera d'alterner avec les chants spontanés, comme c'est indiqué, donc avec le petit livret bleu pour lequel j'ai, pour ma part, beaucoup de tendresse, ne serait-ce qu'à cause des souvenirs, mais aussi à cause de son contenu. Et comme nous sommes dans le temps de Pâques, nous aborderons ce livret à partir de la page 14. Qui salue ? Qui vous salue ? Qui nous salue ? Bon, moi-même, mais par délégation. C'est évidemment l'Assemblée qui salue. Qui salue ce qui arrive, quel qu'il soit, qui qu'il soit. Comme le fondateur de cette maison, le pasteur Wagner, voulait le dire dans ces mots que j'aménage un tout petit peu, sans, je crois, en trahir l'esprit. Qui que tu sois, frère ou sœur, j'ajoute, passante ou passant, paix sur toi, entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille, militante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte, disons, de la grande lumière qui vient au centre de cette maison, puisque depuis que Charles Wagner l'a fait construire, c'est une particularité très remarquable de cet édifice, que l'assemblée est baignée d'une lumière qui vient d'en haut et qui éclaire les séances. Tu seras l'hôte de ce qui est plus que nous, mais qui nous assemble, de ce qui nous réunit et nous dépasse, et tu seras chez toi. Je vous invite donc à chanter le premier spontané à la page 14. Et pour cela, à vous lever si vous voulez bien. Je vous invite à vous asseoir. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous le voulez bien, pour la raison que je vais vous dire en un mot, à rester assis pendant les séquences suivantes, comme l'indique le petit conducteur de l'ordre du service, et non pas, pour aujourd'hui en tout cas, à vous lever à chaque chant. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que cette alternance entre les chants dits spontanés et les paroles auxquelles ils répondent, cette alternance doit être peut-être plus fluide qu'elle n'est indiquée si, à chaque occasion, on se relève et on s'assoit. C'est un peu, si vous voulez, comme dans d'autres religions que vous connaissez, pendant qu'un officiant dit ce qu'il dit du point de vue de la chair ou de tel autre lieu surélevé, l'Assemblée répond, l'Assemblée réagit. L'Assemblée parle et commente, en quelque sorte. Les spontanés, je les entends comme des espèces de commentaires de ce qui est dit en chaque circonstance. Et d'ailleurs, je vais essayer, si Elisabeth en est d'accord, de ne pas lui donner le signal à chaque fois en disant « nous allons chanter ». Bon, vous savez, ils se succèdent les uns les autres dans ce petit volume, après page, après chacune des étapes qui sont indiquées ici. La première de ces étapes, c'est la lecture de la loi. Merci Nicole, heureusement que tu es là. Le psaume annoncé. Alors voilà, c'est, si vous voulez bien, le psaume 36, dont je vous lis un extrait dans la traduction de Marot. Ô Seigneur, ta bénignité touche aux cieux et ta vérité dresse aux nuées la tête. Tes jugements semblent haut mont, un abîme tes actes bons, tu gardes homme et bête. Ô que tes grâces nobles sont aux hommes qui confiance ont en l'ombre de tes ailes, de tes biens leur désir et au fleuve de tes plaisirs pour boire les appels. Donc le psaume 36. Alors là, il faut se lever. Là, on se lève. J'avais anticipé. Bon, voilà, veuillez pardonner mon impatience d'entendre la loi pour des raisons, je pense, qui s'éclaireront dans un instant. Voilà, donc nous pouvons maintenant nous asseoir et nous allons entendre l'extrait de la loi que nous avons choisi pour aujourd'hui.
L'extrait se trouve dans Exode. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de statue, ni aucune forme de ce qui est dans le ciel, en haut, de ce qui est sur la terre, en bas, ou de ce qui est au-dessous de la terre, dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu à la passion jalouse qui fait rendre des comptes aux fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me détestent, mais qui agit avec fidélité jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour tromper. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni rien de ce qui appartient à ton prochain.
Il n'y a pas beaucoup de mystère au fait qu'après l'énoncé de la loi, Nicole vient de nous lire la première formulation de ce qu'on appelle les 10 commandements dans le testament qu'on appelle ancien. Il n'y a pas de mystère à ce que, après la lecture de cette loi, nous ayons à confesser nos péchés. Il suffit au fond de les entendre pour savoir que si péché veut dire déroger à ce qui est demandé, à ce qui est souhaitable, à ce qui est enjoint, à ce qui est bon. Si péché veut dire cela, alors il suffit d'entendre l'énoncé de ces règles que vient de rappeler Nicole pour savoir combien nous y dérogeons. À chacun et chacune d'entre elles, presque sans aucune exception. Il suffirait de penser l'une après l'autre pour celles dont nous nous souvenons. Pour ma part, je voudrais seulement évoquer la difficulté d'obéir au dixième commandement. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Le grand penseur René Girard a même voulu indiquer que, de son point de vue, cette convoitise de ce qui appartient au prochain était au cœur, au centre de l'expérience humaine. Donc c'est inouï de vouloir intégralement respecter ce commandement. Et pourtant, nous sommes appelés à penser à ce qui en nous déroge. Mais voici ce qui survient d'un coup, comme une immense surprise, reconnaissons-le. Malgré toutes ces transgressions, toutes ces fautes, nous recevons une grâce qui est intégrale et inconditionnelle. Les églises de la Réforme ont beaucoup insisté sur ce point. Elle n'est pas mesurée d'après les actions que nous commettons, elle est inconditionnelle. Dans le psaume 36 que nous venons de chanter plus haut, et dans une traduction plus récente, au verset 7-8, on peut lire « Seigneur, tu sauves les humains et les bêtes ». Combien précieuse est ta fidélité. Ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les humains trouvent un abri. Ils se rassasient dans l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus de Nazareth dit « Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Et dans la lettre aux Colossiens, Paul reprend « Vous qui étiez morts du fait de vos fautes, il vous a rendus vivants avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire, il l'a enlevé en le clouant sur la croix. » Mais cette grâce, pour la reconnaître, il faut que nous lui accordions un certain crédit, et ne prenez pas ce mot au sens le plus marchand, crédit, c'est le même mot que croire, il faut que nous lui accordions une certaine foi. Pour cette foi, pour essayer de l'énoncer, de la formuler à ma manière, mais sans éviter la difficulté, j'ai lu, relu, et je me suis appuyé sur le symbole des apôtres, tout simplement. Et voici ce que j'entends, ce que je vous propose d'entendre de ma part, pour y répondre de la vôtre. J'ai foi en un sens infini qui crée l'univers, le porte, le traverse et l'appelle. J'ai foi en la valeur infinie de l'existence de Jésus de Nazareth, de ses paroles, de ses actes, de son histoire. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été martyrisé, crucifié, il est mort, il a été enseveli. Sa mort a été suivie d'une régénérescence, de ses paroles, de ses actes, de sa vie. Notre existence prend sens devant ce qu'il fut et ce qu'il est. J'ai foi en l'esprit, souffle et mouvement de la vie et du sens qui est saint. J'ai foi en l'assemblée, ecclésia, universelle, visible et invisible, en la communion de tous les saints de l'humanité, en la rémission des péchés, en la relève des corps et en la vie sans fin. Nous allons maintenant entendre les deux autres lectures bibliques que nous avons choisies dans Matthieu et dans la première épître de Jean.
Matthieu, chapitre 22, les versets 34 à 40. Les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. » Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Et nous écoutons ensuite dans la première épître de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 16. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. À ceci, nous savons que nous demeurons en lui, comme lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui, comme lui en Dieu. Et nous, nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous, et nous l'avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 266, les strophes 1, 2 et 3. Que ta compassion vienne sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils aient honte, les gens arrogants qui à tort me maltraitent. Moi, je médite tes directives. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit intègre dans tes prescriptions, afin que je n'aie pas honte. Je m'épuise à espérer ton salut. J'attends ta parole. Mes yeux s'épuisent à attendre tes paroles. Je dis, quand me consoleras-tu? Même si je suis comme une outre qui se dessèche dans la fumée, je n'oublie pas tes prescriptions. Quelle est la durée de ma vie? Quand exerceras-tu le jugement contre mes persécuteurs? Des gens arrogants creusent des fosses devant moi, ce qui n'est pas conforme à la loi. Tous tes commandements disent ta constance. On me persécute à tort, secours-moi. Pour un peu, on m'aurait supprimé. Mais moi, je n'abandonne pas tes directives. Fais-moi vivre selon ta fidélité, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Combien j'aime ta loi.
Nous sommes mis d'accord avec Elisabeth pour que la prédication qui vient, conformément à l'ordre qui est sur le petit livret, soit suivie d'un silence. Nous essaierons. Notre ordre du service place en tout début de culte, juste après la salutation et l'invocation, l'énoncé de la loi. Il diffère en cela d'autres protocoles qui commencent par la confession des péchés, qu'alors la loi vient suivre. Comme si nous étions d'abord pécheurs, en quelque sorte par nature, puis appelés à obéir pour nous corriger. Cela me semble contraire à des formulations catégoriques de Paul, par exemple, qui affirme dans un célèbre passage de l'Épître aux Romains « Je n'ai connu le péché que par la loi ». Ainsi, je n'aurais pas su ce qu'était le désir si la loi n'avait pas dit « tu ne désireras pas ». L'ordre de notre culte me semble donc plus juste. Il indique que le premier moment de ce chemin et la réception de ce que nous appelons les commandements. Mais que signifie cette image selon laquelle ils ont été reçus d'en haut, sur une montagne? À mes yeux, c'est plutôt clair. L'image indique que la loi ne vient pas des humains, en ce sens qu'elle n'est pas une fabrication humaine, élaborée par les humains pour satisfaire leurs convenances. Par exemple, selon un épisode très proche, les humains se fabriquent un dieu. Un dieu, dans ce récit, c'est exactement cela, une production humaine, un façonnage, un fétiche, c'est le même mot que façonnage, taillé dans des matières cherchées et recueillies afin d'être adoré pour convenir à ce besoin d'adoration que les humains ressentent, c'est-à-dire une idole. La loi n'est rien de tel. Les humains ne la fabriquent pas, ne se la fabriquent pas. Elle est reçue, descendue dans les têtes et les cœurs, comme, si vous voulez une comparaison, une inspiration. Son origine est plus qu'humaine, ou autre qu'humaine, transcendante. Donc les humains reçoivent la loi, d'ailleurs, d'en haut, sur la montagne. Que dit-elle ? D'abord ceci dans nos traductions, « Je suis le Seigneur, ton Dieu ». Ah là là ! Seigneur. Ce mot, comme vous le savez, est la traduction en français du grec « kurios », qui signifie quelque chose d'analogue. Mais « kurios » lui-même est le terme choisi par des traducteurs grecs pour remplacer, c'est plus remplacer que traduire, un ensemble de quatre lettres hébraïques imprononçables et séparées par une sorte de vide. Chaque fois que les Hébreux arrivaient au point de dire ou de lire le tétragramme, je les imagine butant sur une espèce d'obstacle, un scandale linguistique, une impossibilité de prononciation. Je ne sais pas comment ils faisaient. Sans doute employaient-ils des périphrases, éternel, saint béni soit-il, comme disait mon parrain, mon cher, bon, pas toi Jean, l'autre, celui de l'enfance, mon cher, bon, vieux parrain, si beau souvenir de mon enfance, béni soit sa mémoire. Tout d'un trait, quand il faisait des offices juifs à la maison, et disait le saint béni soit-il, ou encore Dieu. Mais Dieu n'est pas une très bonne périphrase, parce qu'elle paraît indiquer que ce dont il s'agit, ce vide entre les quatre lettres, cet extérieur absolu, ce pur transcendant, est d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que par l'emploi de ce mot, analogue à ces dieux que les humains se façonnent pour répondre à leurs besoins, comme le taurillon, ce veau en or qu'ils se sont fabriqués pour pouvoir l'adorer, quand ils en avaient assez d'attendre Moïse, qui décidément s'attardait trop dans sa conversation privée au sommet de la montagne. Donc la première chose que dit la loi, c'est « je suis cela », cet abracadabra indicible. Mais ce n'est tout de même pas suffisant. Alors la loi donne un repère, bien clair, lui. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. La loi résulte de cette même force, de cette même source qui a permis à un peuple entier de se lever pour échapper à la servitude. La loi est une sœur de la liberté. La loi n'a rien qui asservit ou qui enferme. Elle accompagne l'affranchissement. Et si le tétragramme désigne quelque chose, c'est cette origine commune, absolument transcendante à notre expérience, du soulèvement qui rend libre et de la loi qui rend juste. Alors, comment s'organise-t-elle, cette loi qui énonce 10 préceptes? 10 indications, 10 paroles, 10 commandements. Les 4 premiers concernent le rapport à ce que nous appelons Dieu. Ils prescrivent « Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas de statue, tu n'invoqueras pas mon nom pour tromper et souviens-toi du sabbat. » On remarque que ces commandements s'adressent à quelqu'un désigné par le pronom « tu ». On aurait pu attendre plutôt un pluriel, « vous », puisque l'adresse est faite à tout le peuple, indique le récit. Mais non, c'est bien à chaque personne que l'injonction est donnée. Surtout, ce qui frappe, c'est l'interdiction de tailler des images. On a dit parfois que c'était là une marque de rivalité entre ce Dieu et les autres. Et en effet, en commentant le second commandement, la prescription, comme on vient de l'entendre, indique « Moi, ton Seigneur, je suis un Dieu à la passion jalouse. » Mais s'il s'agissait seulement de jalousie, celui qui parle aurait dû interdire de faire des images des autres entités divines. Et il aurait pu, comme tous les monarques jaloux, demander au contraire qu'on multiplie les figures le représentant, lui, au détriment des rivaux, plus grand, plus à son avantage, plus glorieux. Mais non, il interdit toutes les images taillées, même de lui. Peut-être d'abord, surtout de lui. Et il va même plus loin. Il interdit toutes les images de quoi que ce soit. Humains, animaux, poissons, oiseaux. De ce commandement, le philosophe Emmanuel Kant a écrit que c'est le plus sublime. Et aussi, disait-il, celui qui provoque cet extraordinaire enthousiasme qu'on observe chez les musulmans ou les juifs qui lui obéissent de façon stricte. Parce qu'en fait, l'enthousiasme, le fait d'avoir Dieu en soi, qui soulève et emporte, c'est ce que veut dire le mot enthousiasme. L'enthousiasme ne s'exalte pas surtout, plus que tout, comme on le croit trop souvent, à la vue des images. Tout au contraire, il s'enflamme devant l'absence d'image, le vide d'image, le creux. C'est pourquoi, à mon avis, le nom hébraïque de ce que nous appelons Dieu est imprononçable. Car le nom peut être aussi une image, une idole. En disant Dieu avec trop de facilité, comme si le nom représentait bien ce dont il parle, nous sommes un peu idolâtres. Les 6 autres commandements concernent le rapport avec les humains. Tous, sauf un, sont formulés de façon négative. Il s'agit de ce qu'il ne faut pas faire, et même l'observation du sabbat est principalement définie par le fait de ne pas travailler. Seul l'honneur dû au père et à la mère est formulé positivement. Cela fait beaucoup, tous ces commandements. Beaucoup d'indications à suivre, à observer. C'est difficile. On s'y perd. Il ne faut pas représenter même les poissons, même les fleurs. Il ne faut pas tuer, même en légitime défense, même en cas de guerre, quand on ne fait qu'obéir. Ne pas tuer. Mais qui ? Seulement les humains ou les bêtes également ? Tout cela fait un casse-tête sans fin. Aussi, un pharisien, un docteur de la loi, s'adresse-t-il à Jésus et lui pose-t-il cette question ? Quel est le grand commandement de la loi ? C'est-à-dire, quel est le plus important ? Celui dont tous les autres découlent, celui auquel on doit s'accrocher lorsque les certitudes vacillent, quand la compréhension s'obscurcit, c'est-à-dire si souvent. Selon le récit, ce pharisien est de mauvaise foi. Il cherche surtout à tendre à Jésus un piège. Peut-être. Mais la portée de sa question dépasse sa mauvaise foi. On la comprend, cette demande, même s'il est bien difficile d'y apporter une réponse. On se l'adresse aussi. Elle me fait penser à la question enfantine que me posait ma fille, petite, et par quoi j'étais totalement désarçonné. Quelle est ta couleur préférée ? Violet, orange. Jésus, lui, ne se démonte pas. Il répond, non par un seul commandement, mais par deux. Beaucoup de choses vont par deux dans la Bible. Deux récits de la Genèse, deux récits de la création de l'homme, de la femme, deux fois l'énoncé des 10 commandements, des 10 paroles avec de petites variations, deux testaments et même 4 évangiles. Ici, Jésus répond deux fois. La première réponse est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Jésus ajoute « C'est le grand commandement, le premier. » Cette réponse appelle un peu de réflexion. D'abord, vous l'avez évidemment remarqué, ce commandement-là, tel que Jésus le formule, dont il dit qu'il est le premier, il ne figure pas dans les 10 paroles. À aucun moment, dans les 10 règles, il n'est dit ce que Jésus déclare ici, rappeler. N'avoir pas d'autre Dieu, ne pas faire d'image, ne pas invoquer le nom pour tromper, Jésus ne dit, ne cite rien de tel. Deuxième observation, Jésus rassemble les 4 préceptes en un seul, il les traduit et surtout il ajoute un mot qui ne figure pas dans l'original, c'est-à-dire dans les 10 paroles. Il dit que ce que les Grecs ont traduit par « théos », Dieu, ou « kurios », Seigneur, mais Jésus ne parlait pas grec. Nous ne savons pas ces mots exacts, quel nom il aura utilisé. Cela, il s'agit de l'aimer. Jésus ajoute l'amour. Et pas qu'un peu. Aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute son intelligence. Jésus transfère des commandements d'exclusive, de non-figuration, de non-dénomination trompeuse dans un commandement d'amour. Troisième observation, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, aimer Dieu? La formule nous est devenue familière. Mais si nous la replaçons dans son apparition, au moment où Jésus la propose, la fait surgir, l'invente, est-on sûr de comprendre ou même d'entrevoir ce qu'elle signifie? Pas moi. Que s'agit-il d'aimer au juste? Je sais ou j'entrevois ce que désigne le fait d'aimer quelqu'un, avoir du goût pour son corps, son visage, son regard et donc son âme. Aimer, c'est toujours aussi aimer un corps, non? Ou à travers un corps, dans un corps. Mais Dieu, l'aimer, c'est aimer quoi? Comment? Surtout si l'on tente de tenir à distance toutes les figurations, les images plus ou moins bien taillées, les masques, les personnages, les emblèmes, les idoles. Alors, Jésus formule un second commandement qu'on ne lui a pas demandé. Le pharisien n'en voulait qu'un. Pourquoi répliquer une seconde fois à cette question qui n'appelait explicitement qu'une réponse? Mon hypothèse ne repose sur aucun savoir particulier. Ce n'est qu'une impression de lecture. Mais après tout, ces textes sont là pour cela aussi. Les lectures savantes sont utiles, nécessaires, précieuses, mais ces écrits sont faits aussi pour être reçus par tous, du simple point de vue de la bonne foi. De bonne foi, je ne puis me retenir de penser que si Jésus fournit cette seconde réponse, c'est parce que la première, au fond, n'est pas claire. Qu'on ne sait pas bien ce qu'elle veut dire. Et que donc, une nouvelle fois, Jésus traduit. Entre les deux indications figure en effet cette formule très célèbre et vertigineuse. Et voici le deuxième commandement, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui lui est semblable? Je ne peux pas m'empêcher de lire que ce deuxième commandement est comme le premier, qu'il dit la même chose, en d'autres mots. Et que donc, si tu ne sais pas bien comment faire pour aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, eh bien, aime ton prochain, c'est pareil. En quelques mots, Jésus produit une opération d'une force extrême. Il dit qu'aimer son prochain, c'est équivalent à aimer Dieu. Je pense irrémédiablement au théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, qui, peu avant d'être torturé à mort par les nazis, sur ordre personnel de Hitler, à peine quelques semaines avant la chute, de sorte qu'on imagine Hitler bombardé dans son bunker, traqué sur le point de se suicider et qui s'occupe de faire torturer à mort un théologien avec quelques-uns de ses camarades, coupable d'avoir voulu en finir avec lui, acte donc pour Hitler de vengeance pure, sans avenir, sans horizon, devant les portes de la mort, Bonhoeffer avait écrit dans sa dernière lettre connue et retrouvée « Notre relation à Dieu n'est pas une relation religieuse à l'être le plus haut, le plus puissant, le meilleur que nous puissions imaginer. Cela n'est pas une authentique transcendance. » On pourrait gloser des heures. Cet être le plus haut, le plus puissant, ce n'est pas ça la transcendance. La transcendance, c'est notre relation à Dieu. Elle est une vie nouvelle dans l'être là pour les autres. Opération qu'accomplit Jésus dans ces quelques mots. Remettre encore l'amour au cœur des commandements, car là non plus, il ne figurait pas dans les célèbres 10 paroles clamées par Dieu sur la montagne. Honorer, oui, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter, oui, mais aimer, non, ce n'est pas indiqué. C'est indiqué ailleurs, dans le Premier Testament, comme beaucoup ici le savent, que nous qualifions comme ancien, mais dans les 10 règles. Non, ça n'y est pas. Il substitue encore des indications positives au commandement négatif des 10 préceptes, et au passage, il demande de s'aimer soi-même, commandement qu'il n'invente pas, mais qu'il réinjecte ici, ce que Bernanos rappellera par inversion dans les derniers mots qu'un curé de campagne écrit dans son journal, « La grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrant du Christ. » Phrase que Ricoeur a beaucoup méditée. « Aime-toi toi-même, comme ton prochain, comme tu aimes ton prochain. Tu es un prochain, toi aussi. » Quelqu'un d'autre va franchir un pas sur cette route, c'est l'auteur des Épîtres de Jean. Qui est-ce ? Une édition savante nous apprend qu'il y a beaucoup de parenté entre ces 3 lettres et le 4e évangile. La référence à l'évangile dit de Jean semble donc assurée. Mais qui est l'auteur de cet évangile, dit de Jean ? La même édition savante indique « L'opinion reçue dans l'Église depuis le second siècle au moins est exprimée par Irénée en ces termes. Jean, le disciple du Seigneur, celui qui reposait sur son sein, publia son évangile à Éphèse après que les autres évangiles eurent été écrits. » Et l'édition reprend « En fait, l'apôtre Jean n'est jamais nommé sous ce nom dans son évangile, le texte renvoie toujours à la figure du disciple que Jésus aimait. » Que nous donne donc à entendre celui que cette filiation présente comme le disciple que Jésus aimait, au point qu'il reposait sur son sein ? Au moins 3 choses distinctes qui sont comme 3 paliers, 3 marches. Je ne les reprends pas dans l'ordre, mais selon une progression qui me semble nette. D'une part, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Le rapprochement des formules est très fort. Personne n'a jamais vu Dieu. Et donc, si les mots ont un sens, ni même Moïse, ni même Jésus. Nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas ce qu'il est, comment il est. Et dans cette absence radicale de savoir et de présentation, nous avons un extraordinaire recours. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Il y a une forte différence entre le fait de le voir, qui nous est interdit, et le fait qu'il demeure en nous, comme dans l'enthousiasme. Voir Dieu, ce serait le poser face à soi, comme un objet de connaissance ou de reconnaissance. Ceci est absolument exclu. Mais qu'il demeure en nous, c'est le sentir vivre au plus profond de notre intériorité, de notre dedans, dans ce fond de notre fond que la tradition appelle le cœur. Cela nous est accessible par un moyen très bien défini que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas dans un supposé rapport à Dieu que nous sommes en rapport avec Dieu. Ce rapport nous est donné comme un rapport entre nous. Cela, que nous appelons Dieu, est en nous exclusivement dans la mesure où l'amour est entre nous. Deuxième palier, celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu. C'est la même chose, bien sûr, mais avec une précision très nette. Il s'agit de celui qui n'aime pas, à qui l'accès à Dieu reste interdit. Celui qui n'aime pas, non pas qui n'aime pas Dieu, mais qui n'aime pas, tout simplement. Et enfin, troisième palier, Dieu est amour. Il n'est pas question ici de l'amour que nous porterions à Dieu, comme si Dieu était un être parmi d'autres, un être parmi les êtres, que nous devrions aimer spécifiquement. Il ne s'agit pas non plus de l'amour que Dieu nous porte, même si cette même épître en parle longuement aussi. Ce qui est désigné ici est l'amour que Dieu est. Voici la première définition de Dieu qui nous a été donnée. Dieu, c'est cela, l'amour. Dieu n'est rien d'autre. Où est l'amour ? Il y a cela que nous appelons Dieu. Croyez-vous que je force le texte ? Ce n'est pas sûr, car la lettre répète, de peur que nous n'ayons pas entendu. Dieu est amour. Et elle poursuit, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Le lien entre ce que nous appelons Dieu et l'acte d'aimer est présent depuis longtemps dans les textes bibliques, depuis le Lévitique, c'est-à-dire un texte très ancien. Mais cette phrase-là, qui nous semble si familière, un peu banale, galvaudée, affadie, « Dieu est amour », apparaît ici pour la première fois. Elle ne figure pas dans l'Ancien Testament, mais pas plus dans le Nouveau, dans la bouche de Jésus. C'est ici qu'elle surgit, dans la première épître de Jean, c'est-à-dire presque à la toute fin de ce que le canon a constitué comme Nouveau Testament, à l'extrême fin de ce que les chrétiens reconnaissent comme la Bible, tout au bout du parcours biblique, des milliers de pages et presque de 1000 ans, comme s'il avait fallu tout l'énorme travail exprimé par la Bible, ces dizaines de livres, ces centaines d'années et ces milliers de pages, pour arriver à cette définition. Entend-on assez l'audace de cette extraordinaire formule, de cette briseuse de fétiches ? Ce n'est pas certain. Dieu est impossible à connaître, à voir comme objet. Dieu échappe, son nom même est trompeur. On ne sait pas de quoi on parle quand on parle de cela que nous appelons Dieu, en ne craignant pas assez de manier l'idole linguistique qu'est trop souvent ce nom, si nous le prenons comme une image taillée dans la langue. Eh bien, presque à son terme, le gigantesque processus biblique nous dit ceci. Vous ne savez pas ce que désignent ces quatre lettres ? Vous faites bien. Vous avez grandement raison de ne pas savoir. Mais ce que vous pouvez porter en vous, au fond, du fond de vous, c'est qu'au moment où vous éprouvez ce transport interne qui vous enlève et vous projette au-delà de vous, et que nous appelons d'un nom un peu trop tiède, amour, cela que vous cherchez avec ces quatre lettres bouge, vous bouge au tréfonds de votre cœur. Amen.
Alors les annonces, elles vont commencer par un grand merci, vous imaginez bien. On a tous eu énormément de plaisir à écouter cette prédication riche qui nous invite à nous reposer la question du nom et de l'image que nous nous faisons de Dieu, de la loi, de tout ce que nous avons entendu depuis nos jeunes années sans se poser forcément toutes ces questions. Et puis merci aussi pour cette liturgie cette liturgie fort intéressante, puisque désolé pour le malentendu qu'il y avait, parce qu'on aurait pu effectivement s'arranger autrement, mais ça nous a aussi donné l'occasion de revisiter, de relire cette liturgie moment après moment. Ça a été un moment également extrêmement intéressant de voir pourquoi nous faisons ces différentes étapes de la liturgie. C'était aussi un moment particulier. Donc, merci beaucoup, Denis Guénoun, de nous avoir offert ce très beau moment ce matin. Je n'ai pas beaucoup d'annonces aujourd'hui, puisque nous sommes effectivement au milieu des vacances scolaires, que la semaine va être un petit peu pauvre en activité. Il y a juste cette semaine les cours de français, comme d'habitude, le mardi et le jeudi. La semaine prochaine, dimanche prochain, le culte sera assuré par Didier You. À noter sur vos agendas. D'une part, nous avons eu des discussions avec l'émission Présence protestante depuis quelques semaines, discussions qui se sont soldées par un accord, parce que l'émission était compliquée à enregistrer. Donc, Présence protestante va faire une émission commune avec le Jour du Seigneur. Cette émission sera enregistrée le samedi 8 juin prochain. Mais les techniciens et les producteurs de l'émission resteront pendant 3 jours dans le temple, puisque au plan technique, c'est une émission qui est compliquée à produire. Il y aura dans ce temple à peu près une quarantaine de techniciens, donc vous voyez que ça va être des éclairages et beaucoup de matériel technique. Ce qui est intéressant, c'est que cette émission sera consacrée aux psaumes, et surtout à l'approche respective des catholiques et des protestants vis-à-vis des psaumes. Donc il y aura la participation de nombreux groupes de musiciens qui sont déjà sélectionnés par l'équipe de production de Présence protestante. Et puis il n'est pas impossible que nous ayons quelques minutes à consacrer à ça nous-mêmes, soit un certain nombre de paroissiens, soit des musiciens que nous désignerons pour chanter un psaume. Donc tout ça n'est pas, c'est très très neuf, donc c'est pour ça que je voulais simplement vous en parler pour que vous puissiez noter cette date du samedi 8 juin sur vos agendas. Il y aura donc un concert et toute cette émission sera enregistrée en public, donc vous serez vraiment sollicités pour être là et assister à cette émission, et peut-être même à participer en direct, mais vers vous à ce sujet un peu plus en détail prochainement. Et puis autre date à noter d'ores et déjà sur vos agendas, le culte d'adieu de Catherine Axelrad, qui, comme vous le savez, sera restée avec nous un an de mission pastorale, et nous lui ferons un culte d'adieu le 30 juin, qui sera suivi d'un repas évidemment. Donc là aussi, notez cette date, puisque je pense que vous aurez tous à cœur de lui témoigner votre amitié et vos remerciements pour cette année qu'elle aura passée auprès de nous avant l'arrivée de notre pasteur Dominique Hernandez. Qu'est-ce qui se passe également d'important dans cette maison? Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en phase de travaux dans les deux appartements du 3e et du 4e. On vous l'a expliqué pendant l'Assemblée Générale, ces deux appartements qui sont donc le presbytère et l'appartement du pasteur vont être inversés, c'est-à-dire que les bureaux du presbytère passent au 3e étage et l'appartement du pasteur au 4e étage. On a plusieurs entreprises. sont un peu moins importants que ceux que nous aurions pu faire dans le troisième. Et puis, nos bureaux sont réalisés dans le troisième. Tout ça avance bien. J'espère qu'on aura le temps de faire l'ensemble des travaux avant l'arrivée de Dominique Hernandez, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais les entreprises s'efforcent de tenir leur délai, ce qui n'est pas mal. Et puis, comme je vous l'avais dit, nous allons faire un appel spécial pour les travaux du pasteur, puisque ceci dépasse largement le budget que nous avions voté pour cela l'année dernière. Donc ça nous fait une transition toute trouvée pour l'offrande. Je pense que voilà, tu vas pouvoir prendre. Hein, voilà, c'est tout ce que j'ai. Est-ce que quelqu'un d'autre a une annonce à faire pour les jours qui viennent? Oui, Frédéric. Oui. Eh bien, effectivement, il y a déjà 2 personnes qui m'ont demandé. J'ai envoyé un petit mail à Bertrand Cazeneuve pour savoir si les protestants faisaient quelque chose. Oui. Oui. Alors, je pense que vous avez raison. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un don identifié de l'Église protestante unie de France, par exemple. Très bien. Bah, écoutez, je vais suivre la réponse de Bertrand Cazeneuve et je vous la communiquerai de façon à ce que nous soyons tous... Bien sûr, bien sûr. Absolument. Merci pour cette suggestion. Et effectivement, ça n'est pas la première fois que j'entends, donc on va suivre ce point. Merci beaucoup.
Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 279. Je propose à... Comme nous sommes un peu en retard, je te propose, Elisabeth, si tu veux, qu'on, contrairement à ce qui a été indiqué, on fasse les strophes 1, 2 et 4, si tu veux bien. C'est le moment de l'offrande, que d'ailleurs notre petit volume appelle collecte. L'offrande, c'est très beau parce que c'est le don, mais collecte, ça indique le collectif, la collectivité, le fait que cette maison ne tient debout que par tous les piliers que nous sommes chacun. Et nous pouvons chanter maintenant le cantique 279, strophes 1, 2 et 4. Restons debout pour la prière. Jésus de Nazareth nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte. Ce que beaucoup de gens ont compris comme la métaphore de l'intérieur, du cœur, ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous en fais pas entrer dans l'épreuve,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
Et il s'ensuit la bénédiction. Au nom de quoi pourrais-je bénir, vous bénir, tous et chacun, frères et sœurs, en humanité, comme disait Wagner, pasteur Wagner, au nom de quoi pourrais-je vous bénir, sinon en notre nom à tous et plus encore, au nom de ce qui nous assemble, par-delà la conjonction de nos intérêts, notre assemblée et non notre assemblage, ce qui nous unit, qui nous réunit, nous excède, nous dépasse, nous soulève et nous emporte, au-delà de ces portes, vers tous les humains, nos sœurs et frères. Conformément à la belle tradition de notre maison, je vous invite à vous asseoir un bref moment pour écouter la grâce que nous fait Elisabeth Gégère, notre organiste, de nous offrir une pièce d'orgue.